Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Dans l'histoire de l'exploration spatiale, l'idée d'une station orbitale est apparue très tôt, dès les années 1960. À cette époque, elle prévoit la présence permanente d'un équipage de 10 à 20 astronautes. Les utilisations envisagées alors sont multiples. Laboratoires scientifiques, observatoires astronomiques, assemblage d'engins spatiaux, dépôts de pièces détachées, de matériel, stations de ravitaillement en carburant, voire hub de transport. Entre 1963 et 1966, le projet de station spatiale commence à se préciser. Celui-ci doit utiliser le matériel développé par le programme Apollo. La NASA considère qu'une station spatiale occupée de manière permanente est la suite logique du programme Apollo, au même titre que la navette spatiale et les missions habitées vers Mars. Au début des années 70, l'URSS prend de l'avance dans le domaine des stations spatiales, avec le programme Salyut, aux objectifs tout à la fois civils et militaires, qui sera suivi par le développement de la station Mir, qui a été en usage entre 1986 et 2001. Dans le contexte de compétition spatiale et de guerre froide caractérisant les relations entre les États-Unis et l'URSS à cette époque, le président Ronald Reagan demande en avril 83 à la NASA de lancer un projet de station spatiale pour la recherche scientifique. Et elle devait être occupée en permanence. Il annonce le 25 janvier 84, au cours de son discours annuel sur l'état de l'Union, la volonté des États-Unis d'entreprendre sa construction en coopération avec d'autres pays. Le 31 janvier 85, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, accepte de s'associer au projet, suivi de l'Agence spatiale canadienne le 16 avril et l'Agence spatiale japonaise le 9 mai. C'est le début de la coopération internationale dans le domaine du spatial. Entre 71 et 80, plusieurs stations Salyut seront lancées, avec plus ou moins de succès. Lors de la première mission Salyut, l'équipage est arrivé à bord du vaisseau Soyouz et a réussi à s'amarrer, mais pas à entrer dans la station. Le deuxième équipage arrive quelques mois plus tard, va passer 15 jours dans la station, mais va devoir gérer un départ de feu électrique à l'intérieur de la station et leur retour sera dramatique, puisqu'une dépressurisation accidentelle de Soyouz entraînera la mort des trois cosmonautes. Une version militaire du programme Salyut est également lancée. Ces missions, nommées Almaz, gardent le nom officiel de Salyut afin de dissimuler leur nature militaire. La première mission sera un échec puisqu'une avarie technique entraîne la destruction de la station lors de sa mise en orbite. Mais en 1974, Salyut 3 verra enfin un séjour spatial d'une quinzaine de jours rentrer sur Terre en vie. Selon Igor Afanassiev, un spécialiste de l'histoire spatiale soviétique, les contrôleurs au sol auraient testé, peu avant la désorbitation de la station, la mitrailleuse lourde dont était équipée Salyut pour se défendre d'une agression américaine. En 1976, c'est Salyut 5, identique à Salyut 3, mais sans équipement militaire qui sera mis en orbite. Un équipage de deux cosmonautes a prévu d'y rester une longue durée, le niveau d'activité solaire étant particulièrement bas à cette période, ce qui devrait permettre à l'équipage d'effectuer un séjour prolongé. Mais cinq jours plus tard, l'équipage réintègre le vaisseau et revient sur Terre. Aucune explication n'est donnée par les autorités soviétiques sur ce qui ressemble à une interruption prématurée de la mission. Et les spéculations sont nombreuses côté occidental. Un problème de santé physique ou mental, le mal de l'espace ? Il semblerait que la mission ait été interrompue à la suite d'un conflit entre les deux membres de l'équipage, ce qui démontre l'importance d'une préparation psychologique des équipages. Les deux stations suivantes constituent une évolution majeure dans le concept de Salyut. L'allongement de la durée des séjours nécessite d'accroître la quantité de consommables, nourriture, eau, oxygène. Or, les vaisseaux Soyouz ont une capacité d'apport limitée. Pour supprimer cette limitation, qui était également présente sur la station américaine Skylab, un deuxième port d'amarrage est ajouté. Celui-ci est utilisé par des vaisseaux cargo sans équipage, lancés au cours des missions qui seront chargées d'apporter juste du ravitaillement. Ce type de nouveau vaisseau, baptisé Progress, est dérivé de Soyouz. Son module orbital est rempli avec du fret, tandis que le module de descente contient les ergols qui seront transférés dans les réservoirs de la station spatiale. Une fois déchargé de son fret, le vaisseau progresse et rempli avec tous les déchets de l'équipage. Il se détache alors et puis enchaîne automatiquement une manœuvre qui doit l'amener à rentrer dans l'atmosphère terrestre. Le vaisseau cargo est dépourvu de bouclier thermique. Sans ce bouclier, il est détruit dans sa rentrée atmosphérique. Une forme assez coûteuse d'incinération des déchets. Le nouveau port d'amarrage des stations Salyut est également utilisé pour accueillir des équipages venant effectuer un bref séjour dans la station en tant que visiteurs. Cette facilité est utilisée par les dirigeants soviétiques pour inviter à bord de la station des spationautes venant d'autres pays, mais des pays avec lesquels l'Union soviétique entretient des relations privilégiées. Initialement sont invités des ressortissants d'autres pays communistes comme la Tchécoslovaquie ou l'Allemagne de l'Est, puis cette proposition est étendue à tous les pays non alignés, comme la France ou l'Inde. La nouvelle version de la station dispose également d'un SAS, permettant des sorties extravéhiculaires pour installer des équipements sur la coque externe ou effectuer des réparations. En 1976, c'est le programme Mir qui prend naissance, avec la signature d'un décret portant sur le développement d'une station, comportant plusieurs modules dans le but d'augmenter le volume habitable. C'est comme si on branchait des Legos en forme de Soyouz sur le bout de la station. De l'intérieur, la station Mir ressemble à un labyrinthe où s'entrecroisaient tuyaux, câbles et où les instruments scientifiques côtoyaient les articles de la vie quotidienne comme des photos, des dessins d'enfants, des livres ou encore une guitare. Savez-vous que vous pouvez visiter la station Mir, ou en tout cas une réplique qui avait été utilisée pour l'entraînement des cosmonautes ? Cette station Mir d'entraînement est visitable à la Cité de l'Espace à Toulouse. Je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'on se rend compte de la taille de la station et de tout l'aménagement qui était requis à l'intérieur. La station était communément habitée par 3 membres d'équipage, mais était capable d'accueillir jusqu'à 6 membres pour une durée maximale d'un mois. La station était conçue à l'origine pour pouvoir rester en orbite à peu près 5 ans. Elle a finalement été utilisée pendant 15 ans. On y trouve des quartiers d'habitation avec une petite cuisine dotée d'une table et d'un système pour réchauffer les repas, un emplacement de stockage des déchets, un vélo d'appartement et un tapis roulant pour l'entretien physique. L'équipage était aussi fourni en shampoing sans rinçage et en dentifrice comestible afin d'économiser l'eau. Le module comportait 3 mini-cabines individuelles, de la taille d'une cabine téléphonique à peu près, avec un petit hublot, un sac de couchage et un siège pliant. Comme la station connaissait 16 levées et couchers de soleil par jour, les fenêtres étaient couvertes pendant la nuit pour donner une impression d'obscurité et faciliter le sommeil. Pendant leur temps libre, les membres d'équipage rattrapaient des travaux non achevés, observaient la Terre qui défilait sous la station, répondaient aux lettres, aux dessins et aux autres objets envoyés depuis la Terre, et leur donnaient un cachet officiel prouvant qu'ils avaient bien été à bord de Mir. Ou encore, utilisaient la radio amateur de la station afin de communiquer avec des radios amateurs sur Terre. La station était également équipée d'un large choix de livres et de films à disposition de l'équipage. La station Mir verra également, après la chute de l'URSS, le début d'une collaboration internationale, puisqu'à partir de 1988, des Européens, dont le Français Jean-Loup Chrétien, feront partie des équipages qui séjourneront dans la station Mir. Et la collaboration deviendra même mondiale, puisque des Américains y séjourneront en 1992, après un accord signé entre George Bush et Boris Yeltsin. En 1998, et après de nombreuses années de vols et de séjours internationaux, la construction d'une station spatiale internationale est décidée au cours d'une réunion qui se tient à Washington. Désormais, 16 nations y participent. Les États-Unis, les 11 États européens, le Canada, le Japon, le Brésil et la Russie. L'assemblage en orbite de la station spatiale internationale est un long processus, car le lancement de 400 tonnes de station va nécessiter une quarantaine de vols de la navette spatiale américaine et quelques vols de lanceurs russes. En 1998, le lancement du module russe Zarya par une fusée Proton inaugure l'assemblage de la station. Le mois suivant, la navette spatiale américaine lance à son tour le module Unity de la NASA. Le module d'hébergement du premier équipage est lancé en juillet 2000. La station sera désormais occupée de manière ininterrompue par un équipage mixte américano-russe de 3 personnes, ponctuellement rejoint par des membres des autres pays participants. Russes et Américains prennent le commandement à tour de rôle. L'accident de la navette Columbia en 2003 cloue les navettes au sol et interrompt de nouveau l'assemblage de la station, de février 2003 à juillet 2005. Durant cette période, la station spatiale, qui ne reçoit plus assez de ravitaillement, est placée en mode survie, avec un équipage ramené à seulement 2 personnes, une orbite dégradée et une maintenance différée. En 2005, la NASA annonce qu'il ne reste que 18 vols disponibles de la navette spatiale avant de la retirer du service. Cette décision soulève un réel problème logistique pour l'avenir, car les moyens de transport restants ne suffiront pas à transporter tout le tonnage de fret nécessaire à finir la station spatiale. La NASA lance donc en 2006 le programme COTS, qui confie à des entrepreneurs privés le soin d'assurer le ravitaillement manquant. Et c'est l'arrivée des entreprises privées dans l'exploration spatiale. En 2011, la Station Spatiale Internationale comporte 13 modules pressurisés, dont 4 sont consacrés aux expériences scientifiques. Ça représente un volume d'espace pressurisé de 900 m3, dont 400 m3 habitables. Les panneaux solaires d'une superficie de 2500 m2 fournissent 110 kW d'électricité. La Station Spatiale Internationale est d'abord conçue comme un laboratoire de recherche, affecté à l'étude de son environnement très atypique, caractérisé par l'absence de pesanteur, le bombardement par des rayonnements absents au sol car ils sont interceptés par l'atmosphère, sa position qui en fait un poste d'observation privilégié de la Terre mais aussi de l'espace. Par rapport à la navette spatiale américaine, elle présente l'avantage de constituer une plateforme stationnée pour des longues durées. Et contrairement aux satellites, porteurs d'expériences scientifiques, la présence d'un équipage permanent offre l'avantage d'effectuer à la demande des nombreuses manipulations, surveillance, l'ajout d'intrants, la réparation, le remplacement des composants. Les scientifiques au sol, grâce à l'équipage, ont la possibilité d'accéder facilement aux résultats de leur expérience, d'en modifier les paramètres, de lancer des nouvelles, etc. C'est quand même beaucoup plus simple qu'avec des robots. Par ailleurs, la station spatiale, de par sa position en orbite terrestre basse, fournit un endroit relativement sûr pour mettre au point des systèmes spatiaux qui seront nécessaires pour les missions de longue durée, vers la Lune ou vers Mars. Elle permet d'acquérir de l'expérience dans le domaine de la maintenance, de la réparation, du remplacement des systèmes, et toutes les techniques vitales qui sont mises en œuvre pour les vaisseaux qui devront s'éloigner de la Terre et s'affranchir de toute possibilité d'un dépannage depuis la Terre. Ce type de recherche permet de réduire les risques courus par ces missions et d'optimiser la capacité des vaisseaux interplanétaires. Le programme de la station spatiale lui-même et la coopération internationale qu'il suscite permet à 13 nations d'apprendre à vivre et à travailler ensemble dans l'espace, en favorisant ainsi les futures missions internationales. Alors évidemment, la station spatiale a de nombreux détracteurs qui lui reprochent son coût, estimé à 115 milliards de dollars américains, que ne justifient pas selon eux les résultats scientifiques obtenus. Dans le futur, les stations spatiales sont également envisagées à des objectifs touristiques, comme par exemple avec l'entreprise SpaceX, qui prévoit d'assurer plusieurs missions habitées avec sa fusée Falcon et son lanceur Starship, des missions vers l'ISS, des vols touristiques et même un futur tour de lune. La NASA a aussi commencé à orchestrer l'arrivée des astronautes sur Mars. L'exploration humaine de la planète rouge est considérée comme un jalon essentiel du futur de la conquête spatiale. D'après Elon Musk, l'arrivée des premiers colons martiens devrait se faire avant 2030. Alors je vous propose de vous en parler dans un autre épisode pour voir si cette deadline est tenable.